Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Énerver la suite France Inter Plus 2, 13 novembre, l'enquête, le podcast natif de Sarah Guibaudeau, 4 ans après les attentats qui ont endeuillé Paris et Saint-Denis. Toute cette semaine, vous retrouverez l'enquête au long cours de Sarah Guibaudeau, journaliste à la rédaction de France Inter, sur les préparatifs des attentats et sur les suites judiciaires. Ce soir, épisodes 3 et 4, tout de suite, gros plan sur les 3 futurs terroristes du Bataclan.
13 novembre, l'enquête. Une série en podcast de France Inter.
Il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont tiré.
Deux très fortes explosions.
Je suis lieutenant, j'ai une expérience. Moi, si je veux, je rentre en France et je vais tout péter.
C'est à toi d'aller te faire exploser. Et du coup, de mourir à ce moment-là.
Épisode 3. Les nouveaux arrivants. En 2013, les 3 futurs terroristes du Bataclan prennent la route de la Syrie, cette nouvelle terre sainte que leur a vendue la propagande djihadiste. Que vont-ils trouver là-bas ? Depuis 2011, le pays est plongé dans une guerre civile atroce. La rébellion est composée d'une mosaïque de groupes armés. En France, on connaît surtout l'armée syrienne libre, la branche modérée de l'opposition. Mais sur le terrain, elle est petit à petit supplantée par des groupes islamistes radicaux et en particulier par des djihadistes venus d'Irak. Ils forment la branche locale de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Elle a été créée après l'intervention des États-Unis en Irak. Ces djihadistes sont affaiblis par 10 ans de guerre contre l'armée américaine, mais ils vont profiter du chaos dans le pays voisin pour se relancer. En Syrie, début 2013, ces différents groupes combattent encore ensemble le régime de Bachar el-Assad, mais cela ne va pas durer.
Alors en juin 2013, je me rends à Raqqa. C'est mon 5e séjour en Syrie depuis le début de la révolution syrienne. Et Raqqa est la première capitale de province à tomber et à être perdue par le régime de Bachar el-Assad.
Nicolas Hénin couvre alors la guerre civile syrienne pour Radio France.
Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les groupes d'opposition réussissent à gérer un centre administratif. Et en l'occurrence, les groupes d'opposition qui sont présents, c'est une coalition qui regroupe à la fois des groupes modérés, séculaires, de l'armée syrienne libre, des groupes islamistes, des groupes djihadistes et parmi eux, le Jabhat al-Nusra, qui est à l'époque la filiale d'Al-Qaïda en Syrie, mais qui est en train de vivre une crise puisque en son sein, ceux qui vont créer Daesh, l'État islamique en Irak et au Levant, sont en train de se séparer. Et en fait, bien, je suis capturé, moi, le jour du divorce.
Ces djihadistes du groupe État islamique sont les derniers arrivés dans la bataille de Raqqa. Mais ils veulent prendre le pouvoir par la force et sans témoins.
J'étais allé voir avec Pierre Torres un groupe de militants politiques pour les droits humains qui s'appelle Hakuna. Et puis à un moment, parce qu'il faisait très chaud, je décide d'aller à la petite épicerie qui était juste à côté pour acheter des boissons pour Pierre et moi. Et quand je sors de cette épicerie, il y a une voiture qui pile, 4 hommes en armes à l'intérieur qui me sautent dessus et m'enlèvent. En l'espace de quelques secondes, je me retrouve attaché, couvert à l'arrière de cette voiture entre 2 djihadistes masqués armés.
L'État islamique en Irak et au Levant plante son drapeau noir sur le palais du gouverneur de Raqqa. Les militants démocrates d'Hakuna sont écartés, des opposants exécutés en public, des églises chrétiennes profanées. Dans les geôles de ce nouveau groupe extrémiste, Nicolas Hénin et le photographe Pierre Torres retrouvent 2 autres Français, le reporter d'Europe 1 Didier François et le photographe Édouard Elias, et d'autres otages, des journalistes ou des travailleurs humanitaires.
On est en tout 24 Occidentaux à être enlevés en l'espace d'à peu près 1 an. Parce qu'ils sont radicaux, ils ne veulent pas de témoins étrangers. Ils ne veulent qu'un huis clos dans cette guerre en Syrie entre les djihadistes et Bachar. Et puis, ils considèrent aussi que les Occidentaux sont une cible parce qu'ils ont un agenda qui est international.
À l'été 2013, les otages sont rassemblés à Alep, à environ 1h30 de route de la frontière turque. C'est aussi dans cette zone qu'affluent des centaines de jeunes Européens candidats au djihad. Parmi eux, les trois Français qui, 2 ans plus tard, vont commettre un massacre au Bataclan. 2 sont arrivés en septembre. Le dernier, Foued Mohamed Agade, arrive avec ses amis de Strasbourg un peu avant Noël. La veille, le 18 décembre, c'est Romain qui a débarqué. Ce converti suisse de 29 ans va nous aider à comprendre comment se passe l'intégration des recrues au sein du groupe État islamique. Romain, c'est le surnom que je lui ai donné pour préserver son anonymat. Il est sportif, idéaliste. Aujourd'hui, il témoigne volontiers pour faire de la prévention. Avec un petit défaut d'élocution, surtout quand les souvenirs se bousculent. Ce qu'il nous a expliqué dans l'épisode précédent, c'est qu'à cette période-là, il était déprimé, il ne savait pas quoi faire de sa vie. Le voici à l'aéroport d'Istanbul, où il a retrouvé 2 autres volontaires avec qui il était en contact sur Facebook.
On a passé les quelques heures que durait notre escale ensemble, à faire connaissance, à discuter, à se réjouir de ce qu'on allait voir, tout en essayant d'être discret parce qu'il ne fallait pas trop en parler. Et puis, on a pris un avion pour Hatay, qui est une ville qui est pas loin de la frontière. Et on a été rejoint le lendemain par une équipe de francophones. Et notamment dans cette équipe, il y avait quelqu'un qui voyageait avec sa fille, une fille de seulement quelques mois. On en a su par la suite qu'il avait en fait kidnappé à sa maman.
Il s'agit de la petite Asia. On a beaucoup parlé de cet enlèvement à l'époque. Sa mère parviendra à récupérer la fillette 8 mois plus tard. Rentré en France, le père a été condamné à 10 ans de prison. Le petit groupe de candidats au djihad se rend dans un village près de la frontière turque et patiente dans un hôtel. Romain et les Français ont un contact en Syrie, Mourad Fares, il est parti quelques mois plus tôt. Il sert d'agent de voyage et leur envoie un passeur.
Ensuite de ça, un bus est venu nous chercher et il faisait donc nuit, on a roulé dans des zones de banlieue du village, Faretin, des petits chemins de plus en plus isolés dans la campagne, dans des champs. Et tout d'un coup, on a marché quelques mètres dans un champ, descendu un talus boueux, avant d'arriver au bord d'un plan d'eau. À ce moment-là, on a dû monter par groupe de 5-6 dans un gros bidon métallique. Et le passeur, en se tirant à la corde, nous a fait traverser ce plan d'eau. En arrivant de l'autre côté, on était en Syrie. On a été accueillis et je me suis rendu compte par la suite que c'était probablement un petit peu mis en scène, ce passage aussi. Pour nous faire comprendre que de toute façon, on partait là-bas, que c'était sans issue, dont on ne pourrait jamais rentrer.
Les étrangers sont accueillis pour l'essentiel par les 2 groupes djihadistes, soit le Front al-Nusra, affilié à Al-Qaïda, soit le groupe État islamique, c'est celui que choisissent Romain et les amis de Strasbourg, puisque c'est alors le groupe du recruteur, Mourad Fares. La procédure est devenue très organisée. Les recrues sont d'abord conduites dans un hangar où elles doivent laisser leurs affaires.
On a dû poser toutes nos affaires. Dans un sac, prendre que des habits pour 2-3 jours et un Coran. Tout ce qui était matériel électronique, téléphone, mon appareil photo, mon ordinateur, etc., devait rester absolument au dépôt pour des raisons de sécurité. Le passeport aussi, nous avons pris nos passeports à ce moment-là.
Le groupe État islamique n'est pas encore à la tête d'un grand territoire, mais il a déjà un côté administratif, bureaucratique.
On a dû remplir des fiches en expliquant juste nos informations de base, nos contacts de familiaux, leurs numéros de téléphone.
Un bon paquet de ces fiches seront dévoilés plus tard par un défecteur. C'est ce qu'on a appelé dans les médias les Daesh Leaks. On a ainsi la fiche de Foued Mohamed Agade, le futur tueur du Bataclan. Son nom est suivi de sa kunia, son surnom de guerre. Sur le moment, il a choisi Abou Saïd Al-Faransi, le français. Très vite, il se fera simplement appeler Abou Foued. Il y a sa date de naissance, il a 21 ans, le lieu, Strasbourg. Sa date d'arrivée dans le calendrier islamique, avec un convertisseur, cela donne 19 décembre 2013. Cela correspond. À la rubrique « Connaissance de la charia », la loi islamique, il a coché la case « basique ». C'est le niveau le plus bas. Foued Mohamed Agade a laissé le numéro de téléphone de sa mère. C'est pour la prévenir en cas de décès, m'explique Romain. Il précise qu'un décès est considéré comme une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas seulement par prévenance que le groupe État islamique recueille ces informations.
Le climat est un climat de méfiance parce qu'ils nous font croire qu'on est les bienvenus, qu'on a bien fait les paroles. C'est comme ça qu'ils recrutent des gens d'ailleurs aussi. Maintenant, ils nous font croire qu'ils peuvent se renseigner sur les informations qu'on a transmises, être sûr sur la vérité, de crainte qu'on soit des espions en fait. Et que s'ils apprennent qu'on était un espion, on allait très très mal finir, clairement par une exécution.
Il est arrivé que l'organisation terroriste demande à un de ses sympathisants en France de se renseigner sur un combattant arrivé en Syrie. Les affaires que les recrues ont laissées au dépôt vont être inspectées. On le verra dans un prochain épisode. Je reviens aux fiches du groupe État islamique. Il y a une ligne qui frappe au milieu. Il faut choisir entre combattant et martyr ou ingimazi, un terme difficile à traduire. En fait, l'organisation repère les candidats pour des attaques suicides ou des missions d'infiltration très risquées où l'homme porte une ceinture d'explosifs pour ne pas être capturé. Je ne sais pas si Romain l'avait bien compris dès ce moment-là. Mais quand les recrues sont amenées pour dormir dans une grande maison, une madafa, une maison d'hôtes, là, il réalise qu'il a un choix à faire.
Et en arrivant à la madafa, on a dû choisir dans quel étage on voulait aller de la maison, l'étage du bas ou les étages du haut. Les étages du haut nous laissaient la possibilité de vouloir mourir en combattant, alors que l'étage du bas était destiné à ceux qui voulaient mourir en faisant un attentat suicide. On n'avait aucune solution où il était prévu que nous survivions. Ce qui m'a d'ailleurs un peu surpris, j'ai choisi d'aller l'étage du haut en espérant avoir plus de possibilité de mouvement.
Il y a des gens qui choisissaient l'étage du bas?
Oui.
Des Français aussi?
Des gens de toutes origines. Si vous voulez, le suicide est interdit dans l'islam. Il nous faut comprendre aussi que si on va là-bas, qu'on peut mourir en martyr, en se rendant utile à la population et du coup être jugé pour aller au paradis, selon leurs promesses. Et pas être jugé comme quelqu'un qui veut se suicider, qui à ce moment-là serait jugé égoïste et n'irait en enfer à tout jamais.
Romain se souvient que sur une centaine d'hommes, une quinzaine occupait l'étage du bas.
Et c'est des gens qui passaient leur journée entière à prier. Ils étaient convaincus que c'était le mieux qu'ils pouvaient faire de leur vie. C'est aussi des gens qui avaient des difficultés, comme tous les autres, être partis en Syrie, dans leur pays d'origine. Ils étaient de mémoire, je dirais une quinzaine environ, mais peut-être un peu plus, peut-être vingtaine, à cet endroit-là. Et eux, ils vivaient là, en vivant plus proche de ce qu'ils pensaient de la religion, en faisant beaucoup plus que les prières obligatoires. Ils passaient leur journée là, en attendant d'être élus. Quand on vient les chercher, en disant, mais non, c'est à toi d'aller te faire exploser. C'est à toi d'aller faire un attentat. Et du coup, de mourir à ce moment-là.
Des chercheurs américains ont analysé les quelques 4600 fiches retrouvées du groupe État islamique. En 2013 et 2014, 12% des étrangers se portaient volontaires pour des missions ou des attentats suicides. Pour Romain, qui ne veut pas mourir, dit-il, c'est une première douche froide. Comme les jeunes de Strasbourg, il a coché la case « combattant ». Et pourtant, Romain est aussi euphorique. Il a trouvé une cause à défendre et comme une nouvelle famille.
C'était la fête, c'était tout le monde qui saluait. Ce qui était impressionnant, c'est que des gens, peu importe leurs origines, vivaient dans cette maison ensemble avec des origines totalement diverses. Il y a des gens qui venaient d'Europe, il y a des gens qui venaient d'Afrique, des gens qui venaient d'Asie, des gens qui venaient d'Amérique du Sud, du Nord, et ainsi de suite. Et tout le monde vivait en harmonie dans cette maison.
Les recrues attendent quelques jours que des places se libèrent pour l'étape suivante, le camp d'entraînement. C'est une nouvelle épreuve pour Romain, dit-il aujourd'hui. Un peu naïf, je pense. Il prétend qu'il voulait jouer au reporter de guerre chez les djihadistes. Mais le camp d'entraînement n'est pas en option et il lui semble difficile de se désolidariser maintenant.
Le camp d'entraînement était prévu comme une période où, après être formé là-bas au combat, on pourrait prêter allégeance à l'État islamique. Le camp d'entraînement avait une réputation d'être lointain, d'être distant, d'être au milieu du désert, d'être éprouvant. Et du coup, on est parti dans un bus, on a dû se bander les yeux, soi-disant toujours pour des raisons de sécurité. Au final, j'ai remarqué, on s'était arrêté, le conducteur du bus nous faisait des secousses, alors qu'en fait, au final, nous allions dans un lieu qui était très très proche de cette fameuse madafa où nous étions avant. On a fait un petit tour, le trajet a duré officiellement 3 quarts d'heure, à peu près, pour au final ne parcourir que quelques kilomètres. Le camp est dans un parc qui apparemment devait avoir servi avant comme parc d'attraction pour des jeunes. Il y avait une piscine, enfin qui était à ce moment-là vide. Il y avait des petites cages où apparemment ils mettaient des oiseaux là-bas dedans, apparemment, et une zone récréative, des balançoires, un terrain vague où on nous faisait courir des fois là-bas.
C'était quoi l'entraînement du coup? C'était sport, religion, armes?
L'entraînement de la période où j'y ai passé du temps là-bas était uniquement sportif et quelques théories. Théories en arabe, ils nous présentaient un petit peu certaines armes, comment démonter une Kalachnikov, la remonter. Beaucoup d'entraînement était sur le niveau de l'entraînement physique, la course, des changements de position, se lancer à terre, changer de position pour être discret, et ainsi de suite, pour être prêt à tirer, mais jamais d'exercice de tir.
L'entraînement au tir est sommaire, sans doute parce que les munitions coûtent cher. Une recrue doit souvent s'acheter sa Kalachnikov, l'équivalent de 1500 euros. Romain affirme qu'à ce moment-là, il a juste envie de rentrer en Suisse. Il a attrapé la grippe, qui lui fournit une excuse pour éviter le plus possible de s'entraîner. De plus, comme deux des futurs terroristes du Bataclan, il ne maîtrise pas l'arabe. Il faut trouver un autre volontaire pour traduire les leçons. On est maintenant au tout début de l'année 2014. Et autour du camp, la situation a changé. Avec ses méthodes sectaires et brutales, l'État islamique en Irak et au Levant s'est mis à dos tous les autres rebelles. L'exaction de trop, c'est peut-être quand il a rendu le corps supplicié d'un médecin, chef d'un autre groupe armé. À Alep, le statu quo entre factions rebelles est rompu. Romain comprend que son groupe, qu'il appelle Daoula Islamia en arabe, se bat désormais contre l'armée syrienne libre.
Personnellement, je ne voulais pas mourir. J'ai accepté de prendre le risque, mais j'ai toujours au fond de moi l'idée d'essayer d'être utile à la population contre l'oppresseur qui était quand même encore Bachar el-Assad. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai très vite compris qu'à ce moment-là, les choses allaient changer. Parce que à cette période-là, l'armée syrienne libre veut défendre une démocratie. Et les idées du groupe que j'étais parti rejoindre sont que la démocratie serait selon eux contraire à l'islam. Ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Et du coup, ils se sont séparés du groupe de l'armée syrienne libre jusqu'au point de les combattre. À cette période-là, ils se combattaient entre eux. Et Daoula Islamia était presque à ce moment-là prêt à défendre plus des idées de Bachar el-Assad que des idées de la démocratie, de l'armée syrienne libre, donc de la population qui se révoltait. Ce qui m'a d'ailleurs profondément choqué aussi.
Des checkpoints ont surgi un peu partout. Après le camp d'entraînement, les recrues sont envoyées faire des tours de garde. À peine deux jours plus tard, deux frères du groupe de Strasbourg sont tués. Foued Mohamed Agad envoie à sa famille en France ce commentaire plutôt sec. C'était leur heure, faut être heureux qu'ils sont partis ici au Cham. Pourtant, d'autres Français sont ébranlés dans leurs convictions, pas seulement parce qu'ils sont soudain confrontés à la réalité de la guerre, mais à cause de cette grande discorde, la fitna, disent les djihadistes. Les deux frères de Strasbourg ne sont pas morts en combattant le régime de Bachar el-Assad, mais c'est un comble, dans un affrontement avec d'autres djihadistes du front al-Nosra. Même le recruteur Mourad Fares tente de convaincre les Français de quitter le groupe État islamique. Il n'est pas écouté. Six mois plus tard, Mourad Fares quittera la Syrie et ira se livrer aux autorités françaises. Pour l'heure, l'organisation terroriste, isolée, a besoin d'argent. Elle tente de monnayer ses otages. C'est ce que perçoit Nicolas Hénin depuis sa cellule sinistre et froide.
Alors nous, on n'est déjà plus à Alep. On a été transféré à Noël vers la frontière turque. Sans doute parce que le groupe commence à voir la perspective des premières libérations et tient donc à nous avoir à proximité de la frontière pour pouvoir mener plus facilement des négociations.
Espoir déçu, pour le moment, les ennemis du groupe État islamique déclenchent une grande offensive.
Le problème, c'est qu'on a en janvier 2014 une vaste opération des groupes de l'armée libre, donc des groupes rebelles non djihadistes, qui vont chasser l'EI de tout l'ouest syrien. Et c'est à ce moment-là que l'EI se retrouve renvoyé vers la vallée de l'Euphrate, Raqqa et les zones environnantes. Et donc, eh bien, on a une immense évacuation. Et pendant trois jours, on va être ballotté d'abord dans des voitures, puis à l'arrière d'un camion, au sein d'un convoi qui est colossal, qui fait sans doute des centaines de véhicules, puisque tous les combattants de l'EI, leurs partisans, leurs familles, se retrouvent avec armes et bagages, migrés vers Raqqa. Comme on est une partie de leur trésor de guerre, on est transporté dans ce convoi.
Romain est aussi pris dans cette immense évacuation d'Alep qui commence.
Là, il voit là-bas, c'était le branle-bas de combat, ça bougeait dans tous les sens, tout le monde qui courait à droite à gauche, beaucoup de gens dans ce dépôt, grand bâtiment. Et j'ai vite compris que finalement, vu la situation actuelle, on devait fuir la zone. pour aller, on ne savait pas où, on ne nous expliquait pas où on allait aller. Il y avait des voitures qui défilaient, qui se chargeaient, beaucoup de gens qui revenaient. Ils ont chargé beaucoup d'affaires, des kalachnikovs, beaucoup de choses. J'ai pu trouver une place dans un camion Ben qui n'était pas bâché. Il faisait commencer à faire nuit. Quand on est monté dans le camion, on est monté une quarantaine de personnes assises au fond du camion.
Encerclés par les autres rebelles, les djihadistes se retrouvent aussi sous le feu de l'armée syrienne, qui à ce moment-là ne les combat pas au sol, mais attaque de temps en temps par les airs.
Et à ce moment-là, on a vu passer un avion de Bachar al-Assad qui a passé en rasmot, en nous mitraillant. Et j'ai encore cette image de l'avion qui nous survole très très bas. Nous mitraillons et les balles qu'il a tirées ont fait des gros impacts dans les parois du camion, 1m50 environ au-dessus de nos têtes.
Les camions roulent la nuit et s'arrêtent pendant la journée dans des endroits isolés. Romain est intrigué par la présence d'une ambulance, visiblement volée à une association humanitaire. Il va jeter un coup d'œil.
Ça m'intéressait de savoir comment ils étaient équipés. Ils m'ont dit que je voulais sans problème ouvrir l'ambulance. J'ai ricané un petit peu. Et en fait, dans l'ambulance, j'ai vu qu'il y a des blocs d'explosifs reliés par des câbles. L'ambulance était clairement équipée d'explosifs dedans dans l'objectif de commettre un attentat de suicide.
Dans le convoi qui fuit Alep, s'entassent donc les combattants, des familles et les précieux otages occidentaux. Avec Nicolas Hénin, ils sont confiés à des djihadistes francophones.
C'est Najim El-Shraoui qui est en charge des opérations de transport d'otages. Dans cette voiture, je me retrouve avec Najim El-Shraoui qui est à la place du passager avant et un autre francophone qui est au volant, mais qui dissimule qu'il parle français.
Najim El-Shraoui deviendra l'artificier des attentats du 13 novembre à Paris et il mourra dans l'attentat suicide de l'aéroport de Bruxelles. Lors de la fuite d'Alep, il a 22 ans, il a grandi en Belgique, bon élève, mais cela fait déjà presque un an qu'il a lâché ses études d'électromécanique pour venir en Syrie.
Et d'ailleurs, une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est que pour éviter les bombardements, ce convoi roulait principalement la nuit et sans phare. À un moment, je sens un gros choc dans la voiture. Les deux à l'avant, donc Abou Ahmed et Najim El-Shraoui, poussent une exclamation religieuse. Et je demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils me disent, ah, on a roulé sur un enfant. Je dis à El-Shraoui, mais on s'arrête pas là. Et il me répond, ça sert à rien, il est mort, de toute façon il ira au paradis.
Nicolas Hénin n'a pas identifié le deuxième homme à l'avant de la voiture, celui qui veut cacher qu'il parle français. Abou Ahmed, c'est un surnom courant au sein de l'État islamique. Mais il pourrait s'agir d'un des commanditaires du 13 novembre, le Belge Oussama Attar. Je vous en reparlerai plus tard. Nous sommes donc arrivés au début de l'année 2014. Foued Mohamed Agad a été blessé à la jambe. Pour les Français qui reviendront commettre des attentats, la guerre a vraiment commencé.
Vous écoutez le NRV, la suite France Inter, plus de 13 novembre, l'enquête, tout de suite, épisode 4, où l'on suit le parcours d'un groupe de djihadistes belges et français en Syrie.
13 novembre, l'enquête. Une série en podcast de France Inter.
Il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont tiré.
Deux très fortes explosions.
Je suis venu au djihad, c'est une expérience. Moi, si je veux, je rentre en France et je vais tout péter.
Au départ, il nous a donné cette image-là, comme quoi il est parti pour le côté humanitaire, pour aider les gens, c'est tout.
Épisode 4, la brigade des immigrés.
Là, on a le quotidien des combattants francophones au moment où ils sont arrivés en 2014 dans cette zone. Voilà. On ne les voit pas combattre, mais on voit des images extrêmement choquantes et extrêmement violentes.
De cadavres.
Oui. De cadavres, là on vient d'en voir une.
Et là, ils ont une tête coupée à leurs pieds.
Et là, ils ont une tête coupée à leurs pieds et ils ont fouté dedans. Quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun tabou.
Parmi ces djihadistes qui n'ont plus aucun tabou, il y a quatre hommes qui, le 13 novembre 2015, viendront semer la terreur à Paris et à Saint-Denis. En 2013, ils font partie de la brigade des immigrés qui s'est installée au nord d'Alep avec une vingtaine de Français et de Belges. Son chef, le Syrien Abou Al-Attir, est parfois surnommé l'émir des Belges. Il est à la tête d'un groupe rebelle important et il a prêté allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi. Le chef de l'État islamique en Irak et au Levant veut profiter de la guerre civile pour s'étendre en Syrie. Il va s'appuyer sur ces djihadistes étrangers. Parmi eux, Abdelhamid Abaoud, l'homme qui le 13 novembre viendra mitrailler les terrasses parisiennes. C'est le tireur qui portait des baskets orange. Ce sont les images les plus connues d'Abdelhamid Abaoud. Il est en Syrie, au volant d'un pick-up. Il va démarrer et traîner vers une fosse commune, 7 ou 8 corps attachés à l'arrière.
On traque les mordades, les koufars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam.
Je ne me souvenais plus comment cette vidéo avait été diffusée. Elle provient d'une série d'images ramenées par Étienne Huvert, qui est journaliste indépendant. On est en février 2014. Le groupe État islamique, qui s'est illustré par sa violence et son sectarisme, est chassé de l'ouest syrien par les autres rebelles. Étienne Huvert décide de sauter sur l'occasion pour aller voir les zones libérées.
En fait, on part dans un contexte qui est assez particulier avec mon collègue Guillaume Letellier qui, lui, avait beaucoup couvert cette zone-là. Et Guillaume est venu me voir et m'a dit, voilà, il y a cette ville qui est sur la frontière turco-syrienne qui s'appelle Azaz, qui était dans les mains d'un groupe qui, à l'époque, n'était pas encore très connu, qui s'appelait l'État islamique en Irak et au Levant, EIIL. Et voilà, ce groupe est devenu très connu par la suite, mais à l'époque, c'était connu des gens qui suivaient de près cette histoire syrienne, mais le groupe n'avait pas fait partie de lui. Les combattants passaient d'un groupe encore à l'autre. Tout ça n'était pas encore très bien constitué. Et Guillaume m'a expliqué, voilà, m'a dit, cette ville de Azaz, elle est tombée dans les mains de l'armée syrienne libre. L'État islamique en est parti. Et il y a sans doute quelque chose à faire. En tout cas, c'est intéressant d'aller voir ce qui s'y passe en ce moment et de savoir quelles étaient les conditions de vie des habitants sous l'État islamique. C'était un moment particulier parce que il y avait les otages français encore qui étaient à l'époque dans les geôles de ce groupe de l'État islamique. Mais on s'est dit qu'il fallait pas lâcher l'information. Peu de journalistes y allaient aussi pour ces raisons-là et ça valait le coup d'aller voir ce qui s'y passe. Les billets sont pas chers pour les djihadistes, mais ils étaient pas chers pour les journalistes non plus. Et c'était pas miser beaucoup que d'aller voir ce qui se passait là-bas.
Les djihadistes ont des espions à la frontière. Il y a toujours le risque de se faire enlever. Pendant une semaine, Étienne Huvert et son collègue font de petites incursions prudentes en Syrie.
Et c'est en faisant ce travail-là que des gens sont venus vers nous en disant « Écoutez, on a des photos et des vidéos de combattants francophones. » Les gens qui nous parlaient étaient plutôt proches de la mouvance de l'armée syrienne libre, donc opposée à l'État islamique. Et ils nous ont dit « On a ces images-là. » Au départ, on a temporisé. On a dit « Bon, nous, on veut surtout rentrer dans la ville et avoir les témoignages des gens. » On a quand même décidé de regarder ces images et ce qu'on a vu nous a impressionné, quoi. Et donc, on était dans une voiture, on avait 10 minutes pour savoir si on ouvrait les yeux et on les ramenait ou savoir si on les fermait et on les laissait là. Et on a décidé de garder, de mettre à l'abri entre nos mains ces documents parce que pour nous, c'était des documents qu'on n'avait encore jamais vus.
Le fichier informatique provient du téléphone d'un jeune djihadiste francophone. Son contenu aurait été aspiré par des sympathisants de l'armée syrienne libre, alors que son propriétaire l'avait mis à charger dans un cybercafé.
Alors, on peut regarder un petit peu, du coup
Alors, ça, c'est des photos. Ça, c'est le fichier tel qu'on l'a récupéré le 1er février 2014. On le voit avec son pacol, son chapeau afghan, un gilet de laine, et là, on voit dans le décor qui est derrière qu'il est quasiment sûr de nouveau en Syrie.
À qui appartenait ce téléphone ? Pour l'identifier, Étienne Huvert fouille les réseaux sociaux.
C'était aussi une autre période où, à l'époque, les combattants de l'État islamique, les combattants même de tous ces groupes qui venaient d'Europe, cherchaient à faire venir leurs copains. Et donc, tout se passait sur Facebook et les murs étaient totalement ouverts. C'est-à-dire qu'on voyait au jour le jour où ils étaient. Et on avait repéré un certain nombre de combattants francophones avant de partir. Et directement, quand on était sur le terrain, on a commencé vraiment à faire le tour de ces murs. Et puis, bingo, à un moment donné, on a vu une image qui venait du téléphone portable et qui appartenait à un combattant qui s'appelait Abu Omar Soussi et qui aujourd'hui est tristement célèbre pour s'appeler aussi Abdelhamid Abaoud et être l'un des organisateurs présumés des attentats du 13 novembre 2015. Voilà.
Ce belgo-marocain de 26 ans a grandi à Molenbeek, dans le Grand Bruxelles. Son père est un commerçant qui a réussi, il possède plusieurs magasins. Son fils, lui, est ingérable. Et ce n'est pas son passage dans un collège catholique réputé qui a permis de le raisonner. Abdelhamid Abaoud a fait quelques courts séjours en prison, dont un en 2010 pour un piteux cambriolage raté avec un copain du quartier, un certain Salah Abdeslam. Abdelhamid Abaoud part en Syrie au printemps 2013. Puis il revient en Belgique et en janvier 2014, il enlève son petit frère Younes, âgé de 13 ans, à la sortie de l'école. Il l'emmène faire le djihad avec lui. En février, il est de retour dans la région d'Alep.
Ce qui nous a permis d'identifier le profil d'Abou Omar Soussi, qui a ensuite été attribué à Abdelhamid Abaoud, c'est cette photo-là, qui est finalement une photo assez anodine, où on voit vaguement des combattants à l'arrière d'un pick-up, soleil couchant. Autant il n'avait pas montré les images d'exaction sur son mur Facebook, toutes ces images horribles, elles ne faisaient pas partie, elles n'étaient pas à mur ouvert, mais il avait mis cette image un peu iconique d'un pick-up avec des combattants derrière, au soleil couchant, qui pouvait peut-être donner envie à des amis de venir en se disant « c'est cool le djihad, quoi, c'est l'aventure ».
La Belgique est le pays d'Europe qui a fourni le plus de djihadistes en Syrie en proportion de sa population. Cela s'explique sans doute par l'implantation de plusieurs réseaux ou de personnalités charismatiques qui ont servi de recruteurs. La commune de Molenbeek, et Abdelhamid Abaoud en particulier, ont subi l'influence de Khalid Zerkani. Surnommé Papa Noël, il encourageait ses disciples à voler pour financer le djihad. Dans le téléphone d'Abaoud, Étienne Huvert me montre ces djihadistes qui se filment en train de quadriller un village conquis.
Donc là, on rentre dans une maison où ils rentrent, enfin avec eux. Hein. Et là, on voit, c'est vraiment des jeunes gens qui sont dans cette maison.
Qui ont été tués dans leur maison.
Qui ont été tués dans leur maison. Et on voit certains, ils sont avec des oignons. Ils étaient visiblement en train de faire la cuisine, quoi. Et vous voyez, on voit là un gamin de 14-15 ans, je dirais. Je ne sais pas ce quel âge vous lui donnez. Avec des assiettes, hein, pas des armes. Évidemment, comme on était dans un contexte de guerre, il y a des combattants parmi eux. Et il y a des gens qui se battaient. Peut-être qui faisaient du soutien à des groupes armés. Mais en tout cas, les gens qui sont là n'étaient pas à armes à la main à tirer sur les combattants de l'État islamique.
C'est ici, c'est devant.
Voilà, et on sent aussi une certaine exaltation. Ça, c'est un des compagnons d'Abaoud, et on sent une certaine excitation de se retrouver aussi sur ces lieux, comme si c'était...
Voilà les gens qui nous tuaient. Nous combattons car nous appliquons, nous voulons appliquer la charia d'Allah. Ils ont été fouillés vite fait. Faut regarder les poches derrière. Adrien, faut foutre toutes les poches. Hein.
Il faut vider toutes les poches, il dit.
Il faut vider les poches parce que c'est le butin de guerre. En gros, on essaye de récupérer tout ce qu'on peut sur les corps. Voilà.
Ces Français et ces Belges ne sont pas que des fossoyeurs. Ils ont pris part au combat contre l'armée syrienne libre, notamment. Et ils semblent jouir d'une certaine liberté de manœuvre. Dans une interview à Paris Match, un membre de la brigade des immigrés explique qu'il y a des attaques 100% françaises. Sinon, certains djihadistes ne comprendraient pas les ordres donnés sur le terrain.
Ils combattaient pour la démocratie, pour la laïcité.
Cet accent un peu belge, c'est vrai, très étonnant, quoi. Pour nous, à l'époque, c'est étonnant d'entendre déjà des francophones comme ça faire ce... Vraiment, on prend ces images dans la figure, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait, à l'époque, que des combattants français ou francophones soient partis dans cette zone-là et aient commis ces exactions. Et c'est ce qui, pour nous, est déterminant quand on décide de ramener les images. C'est qu'on se dit, ces gamins sont en train de commettre, d'une certaine manière, des crimes de guerre et il faut... le raconter aussi en France. Et c'est pour ça aussi que les Syriens nous ont donné ces images-là. Il y en a qui nous ont dit, mais les combattants francophones, ils nous tuent, nous, les musulmans, ici en Syrie. Donc il faut que vous le disiez en France pour que ça s'arrête, parce que c'est pas possible, quoi.
Sami Amimour, l'ancien étudiant de Drancy, et Omar Mostefaï, le boulanger de Chartres, deux futurs tireurs du Bataclan, faisaient partie de la brigade des immigrés. Dans ce groupe combattaient aussi Medine Mouche, le futur terroriste du musée juif de Bruxelles, et Najim Lachraoui, celui qui deviendra l'artificier des attentats du 13 novembre. Sur ces vidéos, Abdelhamid Abaoud fanfaronne. Pourtant, les combats sont violents. Encerclés par les autres rebelles, deux djihadistes ont commis des attentats suicides à bord de véhicules piégés pour ouvrir la route vers Azaz. Selon un djihadiste français, l'offensive a fait 90 morts.
Voilà. C'est le 14 février où là, ils se filment. Là, ils sont sur la place principale de Azaz. Et ils se filment le jour d'une exécution et on voit des têtes qui ont été déposées en haut de la statue.
Puis, la brigade des immigrés reçoit l'ordre de se replier vers Raqqa. Le gros des troupes du groupe État islamique a déjà évacué Alep. Azaz est libéré par des rebelles. Étienne Huvert est sur leur trace.
Notre but, c'était d'essayer de rentrer dans la ville une journée. On s'était donné un plan de bataille, entre guillemets, très précis, parce qu'on savait que c'était dangereux, qu'il fallait pas rester très longtemps. Donc, on voulait retourner sur la place où il y avait des exécutions, qu'on voit dans les images. Mais on a quand même pu retourner sur cette place. On a eu des témoins qui nous ont raconté comment, de manière très régulière, il y avait des exactions dans la ville de Azaz sur les civils qui étaient opposés ou supposés opposés à l'État islamique, notamment des enfants aussi de 14-15 ans, d'après ce que nous ont dit certains témoins. Et puis, on a pu s'approcher des villas où les habitants nous ont dit qu'ils appartenaient aux combattants français. C'est-à-dire qu'a priori, les combattants français s'étaient accaparés quelques villas à la sortie de la ville et qui faisaient partie des plus belles maisons de la ville. Ce qui veut dire que, grosso modo, ils s'étaient accaparés des biens assez importants dans cette ville et que les gens n'étaient pas très favorables à ça. Évidemment, quand on voit des combattants qui arrivent de l'étranger, qui en plus s'accaparent vos biens de cette manière-là, c'est jamais très bien perçu dans une ville, c'est sûr.
Les combattants francophones se replient donc sur Raqqa, capitale du groupe État islamique. Ils ne vont pas y rester longtemps. D'après une Française rentrée de Syrie, quand ils étaient à Raqqa, les Français faisaient la fête, traînaient dans les rues et se permettaient de jouer les policiers. Cela n'aurait pas plu à la police islamique. Ils sont envoyés plus à l'est, dans la petite ville de Shadadi. À Shadadi, ils vont pouvoir faire la loi. Plusieurs dizaines de Français et de Belges s'y installent. Les trois futurs terroristes du Bataclan y ont vécu. Des Français deviennent des policiers de l'État islamique. Ils patrouillent dans les rues, veillent à ce que les commerçants baissent le rideau à l'heure de la prière. Certains encadrent des exécutions publiques. Shadadi a surtout un intérêt stratégique. Elle sert de base de repli pour partir à la conquête de l'Irak. Au printemps 2014, les Français et les Belges sont en première ligne. Ils vont être décimés par les batailles de Markada et surtout de Deir ez-Zor. Sami Amimour, l'ancien chauffeur de bus de Drancy, a déjà été blessé à la jambe. Pourtant, il ne dit rien de ses combats à sa famille, me raconte son père, Asdine Amimour.
Comme on a l'ordinateur, on est tous rassemblés, donc, et puis on communique avec lui par Skype. Ce qu'il nous racontait, c'est que vraiment, il fait des exercices, il apprend l'arabe, et puis bon, il aime beaucoup les chats, il m'a dit, bon, j'ai récupéré un petit chaton, et puis il nous le montrait, et puis voilà.
Oui, il vous parle de son chaton, mais il vous parle de la guerre aussi.
Non, rien. Au départ, il nous a donné cette image-là, comme quoi il est parti pour le côté humanitaire, pour aider les gens, et c'est tout. Bon, il était dans un studio, après ils se sont séparés, ils ont eu des appartements. Il était célibataire à l'époque. Il a dit, bon, après, quand je serai marié, j'aurai une grande maison comme mon copain avec piscine et tout ça. Et moi, je me posais déjà la question, et une maison avec piscine, ils ont dû la prendre à quelqu'un et puis le pousser à émigrer et tout ça. Voilà, mais pour nous, non, il n'était pas du tout en plein, sauf un petit peu à la fin. Ils étaient dans un cybercafé et puis à un moment donné, j'ai vu, il y avait trois Kalachnikovs derrière lui.
Après plusieurs tentatives sur Internet, Sami Amimour séduit une jeune lycéenne de Seine-Saint-Denis. Au lieu de passer le bac, elle vient le rejoindre en Syrie. D'autres Français en ont assez vu. Par petits groupes, sept Alsaciens refont le trajet vers la France. Parmi les amis du foot et des bars à chicha, seul Foued Mohamed Agad décide de rester. Peut-être parce que lui aussi a convaincu une jeune Française de venir l'épouser.
« Ya habayeb, wallah, la ajayeb, في شامنا والمصايب من جيش خائن ظلمنا
من جيش خائن ظلمنا.
Ici, le Strasbourgeois apparaît sur une sorte de clip de propagande, encore très artisanal. Un chant religieux qu'on appelle Anachide, le rap des djihadistes, et une succession de photos. Comme celle où il pose en tenue de combat kaki, dans le désert, un bonnet noir sur la tête, le sourire éclatant. Aujourd'hui encore, je m'aperçois que si je tape son nom sur Internet, une des premières occurrences du moteur de recherche est « Foued Mohamed Agad, beau ». Les premiers temps, les conditions de vie sont pourtant rudes de ce qu'il racontait à cet ami.
Lui, quand il était là-bas, il me racontait c'était très dur. Ils avaient des tours de garde, sauf que les djihadistes ne considéraient absolument pas les Français. Alors vraiment pas. Ils les mettent en première ligne et aller en avant guingamp, tu vas tiens une arme alors que tu sais même pas l'utiliser. Mais on les met en première ligne, on les laisse. Les Français sont là pour faire le sale boulot, clairement. Et il me disait, je suis fatiguée, on me laisse pas dormir. Je n'ai pas le choix. Je suis restée en contact avec lui par curiosité. Je vais vous le dire, la vérité. Je suis restée en contact juste pour savoir comment ça se passait. Mais j'ai appris rapidement qu'il commençait à me mentir. Quand il me racontait qu'il était dans une villa, son frère, il disait qu'ils étaient à 110. Quand il me racontait qu'il mangeait très bien, son frère disait qu'il mangeait de l'huile et du pain. Donc, il vivait à 110 dans une villa. Il mangeait du pain et de l'huile. Mais malgré ça, en fait, l'endoctrinement était déjà fait, en fait. C'est-à-dire que même si on le faisait galérer, il s'est dit, c'est pas grave, je vais leur prouver, en fait. Donc il avait quelque chose à prouver. Je pense que si je l'ai bien cerné, c'est pour ça qu'il l'a fait tout ça.
En mai 2014, celui qui se fait maintenant appeler Abou Foued annonce à son frère qu'il est devenu émir, chef d'un groupe de combattants. Il lui demande de l'argent pour acheter un pick-up et l'incite à braquer des mécréants. Mais son frère et ses amis, rentrés en Alsace depuis quelques semaines, sont interpellés le 16 mai. Ils seront condamnés à des peines allant de 7 à 9 ans de prison. La brigade des immigrés a été dissoute. Les francophones vont rejoindre d'autres bataillons, comme la Katibat El Batar, la brigade des Libyens, ou une autre brigade très française. Elle est dirigée par Abdelilah Imich, un ancien soldat qui vient de Lunel, dans l'Hérault. Il a servi 2 ans dans la Légion étrangère. Il a été décoré en Afghanistan. Selon les services de renseignement français, ces bataillons sont une réserve de candidats pour des missions suicides. Parmi les Français et les Belges partis en Syrie, certains ne sont pas restés des petits poussins du djihadisme, comme les appelait le juge Marc Trévidic. Ils font leur preuve au sein du groupe État islamique, soit au combat, soit au sein de sa police, ou encore, c'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant, parmi ses geôliers.
« 13 novembre, l'enquête » est un podcast de France Inter.
C'était le NRV, la suite France Inter, plus de 13 novembre, l'enquête. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite demain avec une plongée dans les geôles de l'État islamique, où le journaliste Nicolas Hénin a été retenu 10 mois. Je vous souhaite le bonsoir.